Parlons un peu du temps, veux-tu ? C'est un concept laborieux, parce qu'il est en dehors de toutes équations et définitions complètes possibles. Chose certaine, il est la création de l'ego qui ne veut pour aucune considération entendre parler d'éternité, de Dieu, d'amour ou d'infini. Pour qu'il garde pouvoir, il doit y avoir un passé où on a fait le mal, un présent où on s'en rend compte et un futur pour payer ses dettes. Il aurait fait un bon banquier, trouves-tu ? Il surveille les faillites pour imposer sa loi. Dans ton monde, étant donné que tout est divisé, les mathématiques sont indispensables. Vois, si je dis à un enfant de première année scolaire de se rendre au tableau et d'écrire le chiffre 1, fier de lui, il tracera une petite ligne verticale. Si je lui dis 6 fois d'ajouter un 0, il le fera. Si ensuite je lui demande d'écrire en parallèle 1 million, il me fera signe que non, il ne sait pas. Son frère lui a dit que c'était un chiffre pour les grands. Pourtant, c'est bien ce qu'il vient d'écrire. Toi, quand tu parles de ton frère, de Dieu, de moi, de toi, de tes parents, de tes amis, de toute la communauté humaine passée, présente et à venir, tu dénombres, tu recenses, tu fractures, tu mesures. Ainsi va la division nécessaire à ton monde de rêve. Pourtant, à mesure que tu t'éveilles, intuitivement, tu sais que la séparation, c'est ce qu'il y a de plus terrible à vivre. Tu commences à discerner qu'il n'y a plus ni de toi ni d'autre et que les zéros sont sans signification. Il n'est que le 1 qui conserve son sens. Si dans ta vie tu divises, additionnes, multiplies ou soustrais, tu ne peux encore accéder à l'innombrable qui escorte la disparition du temps. La matière ne peut être comprise qu'avec les mathématiques, et l'ego en fait son bonheur parce qu'il croit ainsi repousser les limites de son ignorance. Il est bien évident que l'homme cherche son origine. Il est convoqué si fortement par cette mémoire d'intelligence incommensurable, incalculable, indescriptible, en face de laquelle il ne peut que balbutier. C'est seulement qu'il n'a pas encore compris qu'il est contenu dans cette intelligence que certains nomment Dieu. Si tu oses seulement faire mention de cette intuition, créera-t-on scandale ? Peut-être bien. Dans ton monde, peut-il en être autrement ? Ne te trouble de rien. L'ego serait trop satisfait. Quand je te dis qu'il n'y a ni premier ni dernier, ni plus avancé ni retardataire, ni idiot ni surdoué, quand je te dis qu'il n'y a pas de roue karmique possible, pas de toi, de moi, de Dieu, ce que je tente de te faire comprendre, c'est qu'il n'y a qu'un seul rêveur. Il semble étalé sur des milliards de siècles, dans des milliards de formes et d'apparents retours. Toutefois, cette division n'est que le stigmate explicite imposé par le rêve. Il est à l'origine de toutes les guerres, de toutes les malformations de la pensée, de toutes les souffrances et des désirs de mort, en même temps qu'une peur viscérale ou niée de la mort. L'homme endormi se croit voué à l'évidente dissolution. Quand tu commenceras à t'éveiller, tu n'auras ni frère, ni sœur, ni ami, ni conjoint, puisque tu comprendras qu'il n'y a qu'un rêveur. Par bribes d'abord, tu vivras de brèves expériences du vide, puis tu seras dissoute avec tous, en l'immortelle intelligence, dans une joie sans mesure, hors du rêve, du temps, de l'espace, à la redécouverte de ton pouvoir créateur et sans aucune possibilité de régression. Je sais que cette conceptualisation annule toutes tes certitudes et croyances présentes. C'est dépouillé de ces illusions qu'alors seulement tu seras à même de saisir la richesse de mon enseignement. Ma seule présence, qui est tienne également, peut adoucir ton cauchemar. Déjà, à distance, tu commences à discerner les sons de mon flutio. Mon appui est un état pour t'aider à discerner les secousses qui précèdent l'éveil. Quand il n'est pas symbolique, mon langage te devient plus obscur, complexe et difficile. Ne t'inquiète surtout pas. Une note au piano, à l'orgue ou au violon, reste la même note. Il n'y a pas d'image suffisamment vaste pour définir Dieu l'intelligence, car même ces deux mots ont été galvaudés et enduits de brume gluante et obscure. Pour cette importante raison, je t'invite même à oublier tous les mots que j'utilise pour te faire comprendre, car ils ne sont là que pour sonner l'alarme. Ensuite, ils deviendront inutiles. Précédemment, j'ai désigné cette attitude de silence. Tout est à vivre, rien n'est à dire. Pourtant, je dis avec toi. Tu vois la contradiction? Comment faire autrement au monde du rêve? Le blessé, seul en montagne, utilise ce qu'il peut pour soigner une jambe brisée. Il en est ainsi des mots. Ils deviennent une exigence nécessaire que chacun interprète à sa façon. Néanmoins, souviens-toi que si la vérité n'émerge que d'un consensus, ce consensus s'avère impossible dans un monde dualisé. Alors, aime. Quand tu m'as demandé si la réincarnation était envisageable, je t'ai dit non. À la suite des explications que je t'ai données aujourd'hui, comprends-tu mieux que s'il n'y a qu'un rêveur, toutes ces vies apparemment répétitives ne sont que le contenu mystérieux de l'inconscient collectif? Quand, dans un silence observateur, tu laisses monter des mémoires de peur, de haine, de culpabilité que tu n'avais pas encore consenti à regarder et que tu les pardonnes, c'est un chemin par lequel le réveil t'est proposé. Autrement, tu baignes dans ce magma d'inconscience collective que tu projettes sur l'écran de tes jours comme s'il appartenait à des milliers de personnages passés que tu crois karmiques et qui ne sont que des parties de toi étalé sur des siècles sans existence, parce que dans un seul et même rêve. Ces mémoires de toi ne se manifestent que pour t'inviter hors du faux cauchemar. Quand tu utilises cette compréhension et qu'ainsi tu te libères, sans te punir ou te juger, tu as compris que l'erreur dans le rêve est inexistante. Tu franchis alors une étape de taille. Plus personne ne peut être jugé, accusé, condamné ou exclu. Il n'y a qu'un seul rêveur, qu'un seul esprit divin dont tu recouvres progressivement la mémoire, hors de tout rêve possible.
Un jour, il y avait un homme riche et de noble réputation. Il avait deux fils. Le plus jeune, avec lequel il partageait journellement ses rêves, et l'autre, trop sage, trop silencieux, si loin des bruits du monde qu'il rendait le père inconfortable. Un bon dimanche, alors que le père se rendait au circuit de course de stock-car, il se fit arrêter par la police pour excès de vitesse. Il bouillait de colère à chaque interminable minute où ce vilain policier, d'une lenteur exécrable, lui rédigeait une contravention salée. Le pauvre fauteur voyait déguerpir à toute vitesse sa chance d'une place aux premières loges. 12 minutes plus tard, contravention en poche, il se retrouva dans les gradins les plus éloignés. Installé dans un espace étroit, sale et inconfortable, sous un soleil cuisant, voisin d'un soulard qui étalait à grands cris ses commentaires déplacés en lui tapant sur l'épaule avec son journal. La tension atteignit les sommets au moment où le coureur préféré de notre homme, en avance sur ses coéquipiers, dérapa au tournant d'une courbe pour se retrouver sans dessus-dessous dans un étang vaseux. Voilà que l'extatique jouissance se voyait transposée sur un écran infernal. Entrant chez lui, cuit, déçu, exténué, gratifié d'une contravention prodigieuse, le pauvre était fou de rage. Il se précipita sous la douche pour se rafraîchir un peu. Il n'eut pas le temps de savourer cette petite satisfaction, tant ceux qui frappaient à sa porte étaient insistants. Peu vêtu et furieux, il reconnut les policiers. « Je les tue !» cria-t-il. « Je les tue !» Voyant leur mine tragique, il flaira soudain une mauvaise nouvelle. Votre fils, propriétaire d'une voiture sport, à la suite d'un accident dû à un excès de vitesse, est en route vers l'hôpital. Désirez-vous que nous vous y escortions ? Notre homme s'effondra quand il vit son fils préféré, brisé en 1000 morceaux, comme un jouet sur lequel on aurait mis le pied. Ce soir-là, abattu, privé de sommeil, l'épais brouillard de sa pensée laissait poindre les nombreux événements douloureux de sa vie. « Je suis fou », se dit-il en lui-même. « Je suis complètement fou. »
Et toi, à quoi te sert le temps sur l'horloge de tes jours? À t'éveiller ou à rendre ton cauchemar de rêveuse plus compressant, plus terrifiant? Dans ta course folle, tu poursuis une multitude de faux rêves, puissants comme des somnifères. Tu les immortalises en clichés périmés au grenier de tes espoirs. Consens-tu à reconnaître que c'est la peur de la mort qui te fait courir partout et t'éloigne du silence instructeur? Amasser des petits plaisirs, des reconnaissances, des diplômes, des voyages, des sous, des trophées, enfin des rêves dans le rêve. À présent que tu es broyé, souviens-toi de l'ego auquel tu as préféré t'identifier et accorder préséance parce qu'il était l'image de ta folie. Et l'autre, le silencieux, en retrait, debout aux portes de l'éveil, penses-tu l'ignorer encore longtemps? Il est patient, ne t'impose aucune contrainte, il sait qu'il n'en tient qu'à toi de devenir libre. Je te prie une fois, une seule fois, arrête, regarde en détail le paysage de tes jours, accepte d'émonder, de couper, d'arracher tes faux rêves, puis une seule fois, dans le silence, les yeux clos, le cœur ouvert, laisse-toi enfin goûter la splendeur de la paix qui te cherche. Savoure ce repos qui t'effraie parce que tu as peur de m'entendre. En retour, je paierai ta contravention. Je ris, bien sûr. Puis-je, par quelques images, te soulager et t'inviter hors du rêve meurtrier où languissent les hommes? La joie te ressuscite, si tu l'as choisie. C'est le Fils patient qui te propose cette paix, cette joie et ce savoir véritable. Un jour, est-ce trop te demander? À toi seul appartient ta croissance en mon amour, à toi seul le choix d'en étendre la puissance, à toi seul la décision de bondir hors du rêve en devenant le Christ dont tu es la semence. Si un jour, seulement un seul, sans te laisser distraire par le rire fou de ton égo malade, tu pouvais savourer la paix sans borne de l'esprit retrouvé, tu distinguerais enfin les traces du retour sur l'invisible chemin que tu cherches. Il est rare que je te supplie. Maintenant, je le fais en notre nom commun et par compassion pour l'entière humanité. Elle jeûne, la pauvre, depuis des milliers d'années. N'accepterais-tu pas, en son nom, le pain et le vin que j'ai à t'offrir à l'aube d'un printemps nouveau? Te souviens-tu quand tu disais à tes amis « Je suis double et cela m'exaspère » Quand ces formes d'expérience surgissent, ne t'inquiète pas, tu es à l'aube d'une compréhension nouvelle. Tantôt, tu as mieux compris avec l'homme qui avait deux fils. Des exemples concrets, faciles, mesurables, uniquement pour te proposer l'aperçu d'un autre palier. Cet autre échelon, pour aujourd'hui, gardons-le à l'étage du quotidien en présence de cette part de toi appelée l'observateur. Parlons de la dualité. Deux yeux, deux narines, deux mâchoires et prolonge la liste à des milliards d'opposés indispensables à ton monde. Quand tu t'éveilles, avant de poser le pied au sol, considère tes premières pensées. Es-tu reposé, pressé, insouciante? Ne fais que regarder, ne porte aucun jugement, comme si tu étais en dehors de toi. Observe les gestes que tu poses, les pensées qui t'assaillent ou te réjouissent, ta réaction face à l'horaire et au projet qui s'impose. Amuse-toi seulement à regarder. Tu dois partir? À quelle heure? Seul ou avec quelqu'un d'autre? Quel chemin choisir? Où t'arrêter en premier? Pour combien de temps? Chaque jour, allonge ta liste uniquement pour jouer à devenir plus facilement présente. Tu verras que presque toutes tes décisions sont issues de subtiles divisions. Ne tente pas de fuir cette réalité de ton monde, puisque présentement, tu y es. Pour sortir de la dualité, il ne s'agit pas de marcher sur un seul pied, de te fermer un œil ou de te couper une main. Il s'agit plutôt de te souvenir que tu es en classe précisément pour céder la place à l'observateur et non au robot. C'est à force d'assiduité et de constance que l'observateur sera promu au poste de décideur. Si tu développes ce rituel concernant les choses simples, tu te rendras compte plus rapidement des jugements que tu poses, des personnes que tu méprises, que tu favorises, de tes réflexes prématurés face à l'attitude de l'autre, des culpabilités qui te talonnent et sont presque toujours les mêmes. C'est uniquement par la suite que tu distingueras avec plus de justesse les appels à l'éveil. Tu deviendras rapidement consciente que l'ego, sous des masques de besoin, de nécessité, d'appétit, de plagiat, te proposera inévitablement d'avancer dans un champ miné. Il te dira par exemple que si ton frère tue, cela te donne le droit de tuer. S'il dérobe, s'il ment, s'il frappe, s'il hait, cela te donne tous ses droits également. Il ira jusqu'à affirmer que de toute façon, ses gestes n'appartiennent qu'au monde du rêve. Non, oh non, t'avertira le décideur, ne crois pas que ta liberté repose sur des mines antipersonnelles. À l'évidence, le parcours doit s'accomplir avec rectitude, par toi, à travers moi. Sache-le pour toujours, je n'habite jamais hors de la vérité. Au début, tu te questionneras sur la différence d'attitude proposée par le décideur, exactement comme notre ami qui a dû quitter sa hutte et sa chèvre pour retrouver ses clés. À nouveau, je te le demande, renoncer à rien, est-ce si difficile? Un pas, puis encore un pas, et voici que le passage te semblera de plus en plus certain et distant des menaces insignifiantes de l'ego. Loin de la peur, tu progresseras sur le sentier de la rectitude, de la vérité, de la puissance créatrice et d'un amour libre et franc. Il se peut qu'à l'occasion je te propose des choix, mais jamais je ne choisirai à ta place. Autant que ton malheur, ton bonheur t'appartient et à personne d'autre. Si tu accuses, tu te pièges et recommences. Quand tu seras devenu le Christ ou la perfection de ton soi, libre des embûches et de la création du faux rêve de l'ego, d'un seul élan, nous enjamberons et le temps et l'espace à destination de l'astre d'amour éternel. Celui qui appréhende d'être seul fuit le silence. Viscéralement effrayé à la pensée de la mort, il présume de son absence d'accomplissement et craint d'être responsable de son destin d'après. Toute cette souffrance, parce qu'il croit réel le cauchemar dans lequel il se débat encore. J'insiste à nouveau sur la richesse du gland qui a perdu son enveloppe. Comment pourrait-il devenir le chêne sans l'offrande de cette écorce devenue inutile? Qu'importe la forme de l'écrin, pourvu qu'elle contienne la perle. S'il n'y a qu'un rêveur, il n'y a également qu'un seul Christ collectif. Comprends-tu pourquoi il est essentiel de te délivrer de tout blâme et récrimination à l'endroit de l'autre? Je leur ai dit, d'autre, il n'y a pas. Même dans ton monde, ne serait-il pas sot de penser que tu n'es qu'un orteil en ignorant le reste de ton corps? Et si, en plus de t'évaluer comme une bribe d'anatomie, tu te crois soumise à la limite du temps, vois-tu dans quelle brume de peur épaisse tu avances? La peur, c'est un fantôme avec des griffes de vent qui tremble et frappe dans l'espace dépeuplé de son rien, croyant ainsi pouvoir te cacher mon visage. À l'heure de ta sortie du temps, elle devient hystérique par crainte que tu ne poses le pied dans un monde parallèle plus proche de la vérité. Ses arguments les plus puissants sont que non seulement tu es séparé, mais qu'en plus, la mémoire de tes origines est une menace. En vérité, te dit-elle, le rêve est plus sécurisant que l'éveil, parce qu'ici, tu es trop minuscule pour que l'Esprit divin te retrouve. L'enfant, dans le ventre de sa mère, prend expansion seconde par seconde. Il est déjà totalement contenu en la cellule première. Pour la mère porteuse, cependant, le processus paraît se prolonger sur une longue période de temps. Pour rire, amuse-toi à regarder pousser tes ongles. En réalité, tu n'y verras rien. Dans l'espace et le temps, tu es privé de vision. Pourtant, quand tu acceptes de quitter ta pauvre hutte, tu l'oublies rapidement. Les châteaux de mon royaume sont si vastes à visiter. Si tu le veux bien, formulons une entente aujourd'hui. Confie-moi ton éveil et je créerai avec toi le passage hors du rêve, c'est-à-dire la réapparition de la mémoire de ta véritable origine.
Dans un petit village isolé au flanc d'une montagne, un jeune homme montré du doigt était surnommé l'étranger fainéant. Il vivait dans un réduit constitué de deux grosses pierres recouvertes d'un carton ondulé enduit de matière synthétique le protégeant de la pluie. Le jour du marché public, le jeune venait mendier. Il faut dire qu'à l'habitude, il récoltait davantage d'insultes que de pain. Un jour, un groupe d'apprentis de la vie décidèrent de se rendre jusqu'à lui pour lui lancer des pierres. Le jeune homme sortit rapidement et cria si fort que la meute rebroussa chemin à vive allure. Au village, la rumeur adoptait toutes sortes de figures grossissantes, plus monstrueuses les unes que les autres. Le risque était menaçant, il fallait prendre position. Le sage, plus pondéré, proposa d'intervenir d'abord et l'on déciderait par la suite. Le jour convenu, il s'approcha lentement de l'abri en chantant. Le jeune homme vint à sa rencontre, lui proposant l'hospitalité. Prudemment, le vieil homme prit place sur la grosse pierre proposée, alors que son cadet s'assied sur le sol. « Je vous dérange, monsieur ?» dit le vieillard. « Mais pas du tout, j'écrirai plus tard, je vous en prie. »« Vous écrivez aux membres de votre famille, je suppose ?»« Je n'ai pas de famille. Ma mère, mon père et mes deux sœurs sont décédées dans l'incendie de notre maison. Depuis ce temps, j'erre à qui mieux mieux. »« Est-ce indiscret de vous demander à qui vous écrivez ?»« Pour le moment, j'écris pour moi-même. Parfois des contes, parfois des drôleries, mais le plus souvent de la poésie. » « Vous voudriez me faire le privilège de quelques vers ?» osa le vieillard. « Le privilège est entièrement pour moi, cher monsieur. » Et le jeune se mit à lire. Des mots parfaitement choisis coulaient de sa bouche comme des rivières de vin, tantôt légers comme du vais, tantôt si lourds de sens qu'on eût voulu les protéger dans un écrin de pure lumière. Le vieil homme, touché jusqu'à la fibre, muet de joie, essuya soigneusement les larmes abondantes qui recouvraient sa joue. « Vous permettez, dit-il respectueusement, que vos bijoux se retrouvent sur la place publique ? Si oui, dans un premier temps, une petite fête au village, et ensuite, je vous introduirai à un maître possédant suffisamment de compétences pour vous permettre d'y gagner votre vie. »« Ce que je vous serai reconnaissant, dit le jeune aussi ému que son aîné. » Le dimanche suivant, devant une foule éberluée, notre jeune homme raconta, mime à l'appui, des légendes pour enfants, puis des histoires hilarantes provoquant un grand rire collectif, et enfin, quelques poèmes lumineux, révélant à chacun une soif oubliée de valeur infinie. Coupant la foule en délire, notre jeune homme se dirigea droit vers le vieil homme venant à sa rencontre. Souriant, le jeune homme de lui dire « Vous savez, monsieur, hier, j'étais un paria méprisable. Aujourd'hui, je suis un héros. » Et moi, je vous dis, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je le savais, se dit le vieil homme en silence. On semble toujours être ce qui est dans l'œil de l'autre jusqu'au jour où l'on fuit en soi-même. Et la légende dit que tous les deux disparurent et qu'à regret, on ne les revit jamais.
Maintenant, ami, dis-moi ce que tu comprends. Cela ressemble à ta vie ou pas ? Qu'importe que tu me répondes ou non, pourvu que tu comprennes ceci. Ta force et tes limites sont dans le regard que tu poses en dehors de toi. Si tu juges, si tu attaques, si tu blesses, tu t'enfermes toi-même dans une gaine de mépris qui t'empoisonne la vie, gruge ta paix, te donne la nausée et te garde prisonnière du rêveur. Si, au contraire, tu te jumelles à ton frère, si tu cherches à comprendre sa poursuite de la vérité, si ta présence lui devient réconfort en même temps qu'occasion de se révéler à lui-même, alors l'étendue de votre connaissance associée vous projette à un niveau tout autre. Dans ce lieu retiré de ton esprit divin, l'amour est roi, la joie est quotidienne. Le silence t'extrait de la souffrance et accroît ta liberté sans limite. Ainsi, tu t'éloignes du rêveur et retrouves ton espace d'origine en l'amour éternel. Dans ton monde, c'est une merveille, n'est-ce pas, que de voir une mère qui porte un enfant. Les époux, en plus de se réjouir de leur fécondité, projettent des rêves de toute nature. Enfin, à l'instar de leurs parents, ils sont eux-mêmes devenus des adultes responsables. Les jours filent, le nid se pare de chaudes couleurs, de douces couvertures. La penderie et les armoires se gorgent de vêtements, de jouets, d'oursons et de poupées. Et passent les semaines jusqu'au grand jour de la souffrance, doublée de joie. Les premiers temps, cousus de nuits blanches, d'horloges en alerte, de forces qui s'épuisent, les parents se soutiennent l'un l'autre. Trop précieuse est la vie pour qu'on n'y partage pas la sienne. Et l'enfant grandit, il crie, il chante, il boude, jette ses ustensiles par terre, cache la poupée de sa sœur. Cependant, une chose est certaine, ses parents l'aiment. Ils travaillent pour lui, le guident à l'orée de chaque aventure, le tiennent par la main, le couvrent de baisers, le punissent parfois pour son bien. C'est le bien d'un enfant de n'être ni impoli, ni têtu, ni impatient, ni malpropre, ni. On ne fait pas honte à ses parents, ce n'est pas gentil. Avec le temps, l'enfant n'est plus enfant, s'entête et se détache. À 15 ans, n'allez surtout pas le tenir par la main, car votre tour approche d'être puni. Majeur, il tourne les talons, s'amourache et s'en va. On expire d'un côté comme de l'autre. Tu n'avais pas besoin que je te raconte tout ça pour comprendre ce qui se produit devant toi à des milliards d'exemplaires. Pourtant, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est qu'à un autre niveau, tu es resté une enfant. Tu as besoin de joie énorme. D'une attention plus marquée, précédée de louanges et d'appréciations, de titres et de diplômes, d'éloges publics, de promotions, d'argent et de biens sans limite et de courses autour du monde. Plus jeune, quand ça ne fonctionnait pas à ton goût, tu me faisais signe ou me suppliais de t'aider. Hier, tu me tournais le dos pensant que non seulement je ne suis pas toi, mais que je n'existe pas. Aujourd'hui, moi qui suis toi, je te supplie de te reconnaître en moi. Au-delà des fantasmes, des images adorées, des croyances réconfortantes, oui, de devenir la puissance manifeste dont tu as peur. Non ces faux pouvoirs qui créent les veaux d'or, mais ce pouvoir indéniable dont l'expression créatrice réside dans l'esprit divin. Dans un mouvement de retour sur toi-même, reconquiers ta définitive libération. Tu traverses déjà le vide bien au-delà de la forme. Déjà, tu crées ce que tu ne sais pas savoir créer. Le sans-forme bien au-delà de l'espace et du temps, dans l'expansion de l'être. Ne crains pas d'avancer sans que ton cerveau ne puisse décortiquer. C'est l'esprit qui, dans l'esprit divin, se fond. Avance dans ton monde, puisque tu y es. Avance également dans cet autre monde que tu deviens. Là, tu ne seras plus jamais seul. Ne vis pas cet état dans le déplaisir de la forme que tu habites. Aujourd'hui, elle a encore une fonction, quand ce ne serait que de répandre la joie et la compassion autour de toi et que d'écrire ces mots gorgés du Verbe créateur. Ceux qui te devancent chantent de joie. Ceux qui te suivent chanteront le même hymne au pouvoir créateur. Hors du temps, tu pourras rire du temps, comme l'homme d'âge mûr rigole en retrouvant les joies de son enfance. Utilise ce qui est dans ton monde avec joie, mais sans esclavage. L'homme libéré peut rire des chaînes de carton dont il s'est cru prisonnier dans un rêve dénudé de sens. Prends l'humanité tout entière avec toi. Enserre-la dans ta tendresse et tu oublieras avec elle le petit bobo de cette enfance dont s'achève la traversée. Chante à pleine voix. Le passage est créé. Après tant de siècles, la lumière naît. Elle ne peut être mise en doute ou contredite. Elle est au-delà de toute contestation. Certes, quand tu plonges dans la rivière, tu n'es pas encore la rivière. Il faut te défaire de ta densité, mais la rivière connaît le parcours jusqu'à la mer que tu es. Ils chantent, car ils sont de plus en plus nombreux, tes frères qui participent.
Bourrasque. Complice de la terre et de ses habitants, j'ai entendu le ciel hurler à pleine voix. Il pointait le coupable, le grondait sans répit et m'incitait sans cesse à prendre position. J'ai repéré le vent en robe translucide, provoquant le grand chêne, lui arrachant ses glands. D'un souffle belliqueux, il narguait les passants, balayait les chapeaux, les jupes retroussant. J'ai perçu sa colère de n'être qu'un mirage de l'invisible souffle qui me remplit le cœur. J'ai vu ses dents serrées, son haleine brûlante, attaquer les petits, tout autant que les grands. J'ai dû le provoquer, lui fermant ma fenêtre. J'ai ri de ses détours, de ses sautes d'humeur, de ses emportements sans rime ni raison, de son malin délire, de sa fausse obsession. « Tu fais la gorge chaude, osa-t-il riposter. Tu te moques de moi, tu railles ma folie. Tu oses m'affronter, moi, le maître des lieux. Tu m'opposes ta force et tu te prends pour qui ?»« Je te prends pour moi-même, lui ai-je répondu. Je salue ton miroir et je t'en remercie. Je ris de ma démence qui ressemble à ton mal. Je tourne en dérision mes faux emportements. Je dénonce à grands cris l'ineptie du mental. Si tu veux, avec moi, marcher au Francillon, je te donne la main et m'enfuis avec toi vers l'immobile lieu où meurt l'illusion, vers l'océan tout blanc enfoui dans la matière, dérobé malgré lui sous une fumée dense qui s'évanouira au jeu de la conscience. Quand l'homme aura saisi qu'il est devenu Dieu. »